Amplifié, votre émission sur l'actualité.
Qui doit-il sélectionner, de Valbuena ou Benzema?
Grande question.
Exactement. Et
ces messieurs le trouvaient à une époque d'un rafraîchissant iconoclaste, n'est-ce pas?
Peu précis comme description, me ferez-vous remarquer. Pour de la science, ça pose un peu problème.
Le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, prévoit pour son pire scénario une hausse des températures moyennes sur Terre de 4 à 6 degrés.
Non, pas Mein Kampf quand il y a déjà Le Pen, sans surprendre Mélenchon.
Avec au programme de la presse, des enquêtes, de la politique et de l'international.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal radiophonique après une bien trop longue interruption. Alors vous connaissez le principe désormais, j'ai autour de moi les plus brillants esprits de cette radio et nous allons échanger dans la bonne humeur toujours autour de l'actualité. Alors en commençant par la revue de presse assurée aujourd'hui par Clément. Bonjour Clément.
Bonjour Jérémy.
Alors est-ce que la presse fut bonne aujourd'hui ?
Nicolas Sarkozy,
oui, mais c'est pas terrible, on va y revenir. Et puis ensuite, Samuel évoquera avec nous la Grèce, mais sous un angle un peu différent de ce qu'on entend d'habitude, si j'ai bien compris.
Oui, j'évoque moins la Grèce que Yanis Varoufakis, en fait,
voilà,
qui lance un nouveau mouvement politique européen.
Et la figure de Yanis qui nous manquait un peu depuis cet été. Et puis, nous parlerons aussi de l'Europe et de la non-Europe avec Maxime, c'est bien ça?
Tout à fait, des Anglais et des odeurs de cramé.
Voilà, c'est ça, ce sera l'édito international. On poursuivra avec mon propre édito politique. Je vais vous parler de la présidentielle de 2007 et croyez bien que ça ne me réjouit pas. Et puis, nous aurons comme toujours un petit temps d'échange autour des sujets abordés, mais l'émission se conclura par un morceau plus léger avec deux nouvelles voix qui rejoignent notre équipe, Tatiana et Pierre-Antoine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors j'en dis pas plus pour le moment, on va découvrir ça en temps voulu, mais on passe pour l'instant à la revue de presse de Clément.
Demandez France, Soir, Paris, Presse, Le Monde. Demandez le Figaro littéraire.
Alors Clément, j'imagine que la nouvelle mise en examen de Nicolas Sarkozy agite la presse aujourd'hui.
Et oui, tu as raison Jérémy, puisqu'elle figure en une du Monde et Libération lui consacre une double page. Alors il s'agit toujours de ce fameux dépassement du plafond maximum des dépenses de campagne autorisées pour l'élection présidentielle, 22 millions d'euros. En 2012. Alors que nous connaissions déjà l'affaire Big Malion, qui aurait servi à couvrir 18 millions d'euros de surfacturation, depuis novembre dernier, les enquêteurs se sont intéressés à diverses dépenses de l'ex-UMP, apparemment sans aucun lien avec la présidentielle. Et d'après eux, ce serait ainsi 10 millions d'euros supplémentaires qu'il faudrait ajouter à la campagne. Alors Nicolas Sarkozy a toujours dit ne pas être au courant des risques de dépassement de plafond, mais Guillaume Lambert, son directeur de campagne, affirme pourtant l'en avoir informé le 7 mars 2012, plus d'un mois avant le premier tour.
Bon, et j'imagine que tout ça fait le jeu des rivaux de Nicolas Sarkozy.
Ah, et bien personne dans le parti ne veut apparaître comme un fossoyeur, et l'on se garde bien de taper sur le chef. Mais dans les faits, le chef est déjà bien fragilisé. Alain Juppé le distance dans les sondages, et Nicolas Sarkozy a déjà perdu plusieurs fidèles. Et puis, une autre affaire menace l'ancien président. Il est soupçonné d'avoir tenté, en 2014, d'obtenir des informations couvertes par le secret judiciaire. Et le monde se demande si Nicolas Sarkozy pourrait assurer une campagne présidentielle en 2017, tout en ne maîtrisant pas son calendrier judiciaire. Vous imaginez une convocation chez le juge à une semaine du premier tour? Ce serait du plus mauvais effet quand même. Et le journal cite un cadre de l'UMP, enfin pardon, des Républicains, pour étayer cela. Je cite « Il vaut mieux assurer la victoire avec Juppé que de risquer la défaite avec Sarkozy ». C'est assez révélateur quand même. Mais les choses sont-elles pour autant pliées? Eh bien, pas vraiment. Dans Libération, on lit l'exact inverse. À savoir que, je cite, « Les affaires du patron des Républicains ne font pas celle de Juppé et Le Maire ». Alain Onfray explique ainsi, propos d'un cadre du parti à l'appui, qu'une primaire sans Sarkozy risquerait d'être une primaire avec peu de votants. Les gens veulent du match, du sang et de l'affrontement, je cite. Si l'on veut plus de 3 millions d'électeurs, il faut un vrai match. Il faut que ceux qui ne veulent plus de Sarkozy viennent voter, car au fond, la popularité de Juppé repose en partie sur le rejet de Sarkozy. C'est un peu comme pour François Hollande en 2012 en fait, mais bon, je m'égare un peu.
Ah, ça fait très envie, hein, ces matchs retour. Et puis à l'international?
Alors c'est le Brexit. 2008, en une de Libération. Alors, je vais en parler que très peu pour ne pas empiéter sur le papier de Maxime. Libération rappelle, avec une touche d'ironie comme à son habitude, les avantages et inconvénients à voir le Royaume-Uni quitter l'Union Européenne. Mais c'est La Croix qui élargit un peu la perspective en citant Jean-Charles Legge, ancien conseiller de Jacques Delors à Bruxelles. « Depuis son origine, l'Europe fonctionne à la carte », dit-il. Et carte à l'appui, justement, le journal nous rappelle qu'entre les pays de la zone euro et les autres, les pays de l'espace Schengen et les autres, les pays disposant de dispositions particulières et les autres, etc., l'Europe n'a jamais été au régime unique, loin de là.
Et puisqu'on parle d'euroscepticisme, on peut parler aussi de l'Allemagne.
Oui, Nathalie Versieux, correspondante de Libération à Berlin, consacre un portrait à Frauke Petri, élue à la tête de l'AfD, Alternative for Deutschland, en juillet dernier, le parti eurosceptique, alors que ce parti eurosceptique est crédité de 13 à 17% des voix aux élections régionales prévues le mois prochain dans quelques Länder. Alors, cette dame, Frauke Petri, fait partie de la deuxième génération du parti. La première génération recrutait des gens qui étaient simplement à droite économiquement, tandis qu'elle, eh bien, elle appelle à utiliser les armes à feu pour repousser les réfugiés à la frontière. Une de ses adjointes a même expliqué qu'on pouvait également tirer sur les femmes et les enfants, avant de s'excuser tout de même devant le scandale. Si Frauke Petri refuse toute filiation avec Marine Le Pen, l'étiquette d'extrême droite étant tabou en Allemagne, elle adopte pourtant un discours qui n'a rien à envier à notre aboyeuse nationale, et la journaliste conclut ainsi que l'émergence d'un tel personnage a été rendue possible, paradoxalement, grâce à Angela Merkel. En faisant faire un virage à gauche à la CDU, dans le cadre de la grande coalition avec les sociodémocrates, et plus encore avec sa gestion de la crise des réfugiés, elle a laissé un espace politique libre à sa droite.
Et si on retournait maintenant en France, rien sur le remaniement ?
Bon, une semaine après, ce serait étonnant, mais quand même, une conséquence du remaniement, c'est officiel, Ségolène Royal récupère la présidence de la COP21, que Laurent Fabius, en partance pour le Conseil constitutionnel, a fini par abandonner. Alors c'est une victoire pour celle qui en avait été dépossédée par les affaires étrangères, mais le dossier n'est pas facile à gérer. La COP21 est passée et il faut maintenant tout faire pour que l'accord de Paris sur le climat soit appliqué, ce qui risque de ne pas être facile. Le Monde nous explique ainsi que la ministre de l'Environnement va devoir piloter moult réunions avec ses collègues européens et internationaux, notamment pour définir les quotas de CO2 par pays. Alors cela risque de ne pas être facile, connaissant le tact légendaire de la ministre. Dans un portrait sorti il y a peu sur Mediapart, lorsque les rumeurs de remaniement l'annonçaient au Quai d'Orsay, on pouvait lire ceci dans la bouche d'un cadre du ministère. Royal aux affaires étrangères, c'est l'incident diplomatique assuré.
Et puisqu'on parle d'écologie, alors le gouvernement a toujours l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sur les bras.
Oui, en annonçant un référendum sans en préciser les contours, il n'est pas sûr que François Hollande ait apaisé la situation, ce n'est un secret pour personne. Et c'est Charlie Hebdo qui nous fournit peut-être la solution, avec une une. Alors, Jean-Vincent Placet, déjà des résultats. Et un Placet, la bouche pleine. J'ai bouffé toutes les grenouilles de Notre-Dame-des-Landes. Grenouilles, couleuvres ou maroquins de ministre, c'est peut-être le même goût après tout.
Merci beaucoup Clément, et pas sûr effectivement qu'il soit très regardant sur le goût. Alors bon, après ce passage en revue de l'actualité, je propose de gagner maintenant en hauteur et de partir en Méditerranée avec l'enquête de Samuel.
Ça s'est passé pendant qu'on t'attendait là.
Alors messieurs, dames, si je vous dis Dîmes 25, cela vous inspire-t-il autre chose qu'une nouvelle collection de calbutes ? Non ? Eh bien figurez-vous que Dîmes 25, ou plutôt on va dire Diem 25, c'est un sigle, et un sigle qui signifie Democracy in Europe Movement 2025, et qui désigne donc un nouveau mouvement politique. Et ce mouvement nous intéresse car il nous permet de prendre des nouvelles de notre ami Yanis. Vous savez, cet ancien ministre des Finances grec, au crâne si brillant, aux yeux si pétillants d'espoir et d'idéaux, et à l'élégance si atypique. Oui, mes amis, Yanis est un savoureux mélange du Dr Spock de la série Star Trek, de Lord Voldemort, de Zinedine Zidane, et bien sûr d'un beau Redskin. Yanis est un beau gosse, et en plus, niveau politique, c'est plutôt un bon. Grand maître des sciences économiques, il a, on s'en souvient, fait trembler tous ces gougnafiers de Bruxelles lors de ses arrivées en moto, avec son blouson en cuir, ses Doc Martens et ses doigts d'honneur. Et l'on sait aujourd'hui que, contrairement à son premier ministre, M. Tsipras, Yanis était prêt à aller au clash coûte que coûte avec ses salopios de technocrates européens, quitte à brandir la menace d'un Grexit, et surtout à mettre cette menace à exécution si nécessaire. Où en est donc Yanis aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que cette marque de slip qu'il nous sort ?
Vas-y, dis-nous tout, on veut entendre parler des slips.
Alors, Yanis est actuellement en pleine activité, désormais pleinement investi dans ce nouveau mouvement politique qu'il a fondé à Berlin le 9 février dernier. Berlin qui, au passage, vous vous en doutez, n'est pas choisie au hasard. À la fois parce qu'elle est considérée par les intéressés comme la véritable capitale de l'Europe, et de fait parce que, selon les propres mots de Varoufakis, rien ne peut changer en Europe sans la participation intégrale de l'Allemagne. Avec Diem 25, qui se veut donc un mouvement politique européen, Varoufakis et ses acolytes militent en premier lieu pour la transparence dans les prises de décision au niveau européen, transparence qui, vous le savez bien, est aujourd'hui scandaleusement inexistante. Il n'est que de jeter un œil sur la façon dont le méphitique et putride traité transatlantique s'impose à nous pour nous en convaincre, ou bien le manque d'informations dont nous disposons sur l'éventualité d'un Brexit, Maxime va nous en parler tout à l'heure. Donc pour cela, Diem 25 plaide en premier lieu pour la publication systématique de comptes rendus des réunions des divers organes de l'Union européenne, notamment de la Banque centrale, ce qui paraît être la moindre des choses et le bon sens même. Mais il plaide aussi pour la création à moyen terme d'une assemblée constituante qui, remplaçant tous les traités européens actuels, délibérerait d'une démocratie renouvelée, accordant plus d'autonomie aux peuples européens. Donc par rapport à ces objectifs, dont on est bien sûr très loin, le mouvement fonctionne un peu comme un cri d'alarme et cherche à insister sur les conséquences désastreuses qui ne manqueront pas de susciter cette absence de transparence et de démocratie qui ne peut qu'aboutir à une désintégration de l'Europe. Et à ce sujet, Yanis ne fait pas dans la demi-mesure lorsqu'il prédit, le jour du lancement, que la désintégration de l'Union européenne va susciter un effondrement qui va ressembler de manière terrible à ce qui s'est passé dans les années 30.
Et alors, à ce stade, qui d'autre a rejoint le mouvement ?
Alors, la plateforme se veut très ouverte. Le manifeste énonçant notamment qu'il est ouvert, je cite, à tous les démocrates libéraux, sociaux, radicaux, verts en Europe. Et pour l'heure, Diem 25 a malheureusement bénéficié d'un soutien assez modéré de la gauche européenne. Et pour ne rien arranger, notre Montebourg national, qui était pourtant annoncé par Yanis, n'a pas fait le déplacement à Berlin le 9 février pour le lancement du mouvement. On dispose en fait de peu d'informations sur les raisons et les suites de cette non-venue. C'est à suivre. Malgré tout, on peut noter que, par exemple, deux élus européens de Podemos étaient, eux, bien du voyage à Berlin. Et on notera aussi la présence de la députée britannique Caroline Lucas ou de l'écologiste portugais Rui Tabares, et surtout l'intervention par visioconférence de Julian Assange, donc le fondateur de Wikileaks, depuis l'ambassade de l'Équateur à Londres. Il y avait également la visioconférence d'une certaine Ada Colau, militante espagnole qui milite notamment pour l'interdiction des expulsions forcées et qui a récemment été élu maire de cette petite bourgade qui est Barcelone. Donc le peu d'appui de la gauche radicale est à relativiser, car c'est surtout en fait au ténor que l'on pense lorsque l'on parle de ce peu de soutien, à l'instar des Corbyn, La Fontaine ou encore Mélenchon, avec qui les liens n'ont d'ailleurs pas l'air d'être au beau fixe, Varoufakis ayant lui-même snobé le récent sommet pour un plan B en Europe organisé par le parti de gauche et auquel participaient les deux derniers.
Oui, donc la gauche européenne part divisée sur ce sujet, ça risque de pas être très simple.
Effectivement, c'est la première impression qui nous vient. On a un peu envie de dire « trop de plan B tue le plan B » d'une certaine façon. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'outre que le mouvement entend fédérer la société civile sur tout le continent, et non seulement des personnalités et des professionnels de la politique, c'est un mouvement qui a à peine une semaine et que donc les choses peuvent s'accélérer. Du reste, un coup d'œil au nom nous permet de voir qu'il veut s'inscrire dans la durée et que les résultats sont escomptés à moyen terme, malgré l'urgence démocratique qui est soulignée.
Oui, alors justement, à propos du nom... Pourquoi 2025 ?
Eh bien justement, 2025, c'est la date à laquelle le mouvement espère être parvenu à créer cette assemblée constituante dont je parlais tout à l'heure, via laquelle les Européens délibéreront sur la façon de mettre en place un Parlement souverain qui respectera l'autodétermination nationale, notamment en partageant son pouvoir avec les assemblées régionales et les conseils municipaux. La chose est bien sûr ambitieuse, et Yanis en est conscient, qualifiant la finalité du mouvement d'absolument utopique, avant toutefois d'ajouter, dans une grande pertinence, que cette finalité n'est pas plus utopique que l'idée selon laquelle l'actuelle Union européenne puisse survivre à son hubris antidémocratique. Donc voilà, il ne s'agit donc pas de détruire, mais bien de sauver l'idée d'Europe, les rédacteurs du manifeste insistant sur le caractère intact de leur croyance dans les promesses de paix que porte l'Europe et dans l'établissement d'un cadre commun pour le respect des droits de l'homme.
Merci beaucoup Samuel, donc pour ces nouvelles de Yanis Varoufakis. Alors s'il va bien et que l'idée d'Europe aussi, hein, nous voici rassurés. Et on en revient pour une petite seconde maintenant à nos problèmes franco-français, si vous le voulez bien. C'est l'heure de mon édito politique après un jingle. Attention !
Jérémy, tu vas nous parler des élections présidentielles de 2017.
Oui, alors moi-même, je le déplore parce que c'est dans 14 foutus mois. Mais il faut bien reconnaître que face à l'actualité politique, on ne peut pas s'empêcher d'y songer en ce moment, et pas seulement en se rasant. Hein. Bon, alors déjà, information capitale. Un ami me fait savoir qu'il ne faut pas dire les élections présidentielles, mais l'élection présidentielle, au singulier, hein, dont acte. Et en ces temps où le purisme grammatical revient en force, j'ai pensé que vous seriez heureux de le savoir. Mais bon, sinon, les faits sont là. la présidentielle est sur toutes les lèvres. Enfin, pas celle des Français, hein, bien sûr, mais celle de la classe politique. Déjà, le remaniement du 11 février nous a été présenté à la fois comme l'ultime remodelage gouvernemental avant l'élection à venir et aussi comme un gouvernement de combat, justement, pour préparer la campagne. Et puis, vous avez vu, hein, comme moi, le titre de Midi Libre le lendemain du remaniement, un gouvernement taillé pour 2017. Midi Libre quotidien qui appartient à un groupe de presse précisément dirigé par Jean-Michel Baylet, nouveau ministre de l'aménagement du territoire. Donc 2017 comme seul horizon gouvernemental, et puis si c'est la voix de son maître qui le dit, hein, ça doit être vrai. Et alors il n'y a pas que le gouvernement qui est touché par le prurit électoral. À droite au moins, ils ont l'honnêteté de reconnaître qu'ils n'ont plus rien à faire du reste. Parce que rendez-vous compte, hein, la primaire à droite c'est le 20 novembre chez les Républicains, donc dans 8 mois, et on a déjà 7 candidats officiellement déclarés. Juppé, Fillon, Lefebvre, Mariton, Morano, Poisson, Copé. Et sans compter tous ceux qui savent qu'ils iront, mais qui attendent leur heure, parce que n'allez pas croire, un plan comme ça ne s'improvise pas. Donc dans le désordre, Le Maire, Sarkozy bien sûr, Kosciusko-Morizet et peut-être même Guénot. Alors la vache, quel dream team, ça fait rêver. Et puis surtout, avec quel programme, hein. Ah bon, chacun essaie de tirer à soi un petit bout de couverture programmatique. Et c'est bien ça que servent les livres publiés en fanfare et aussitôt oubliés. Mais la vérité, c'est qu'entre le thatchérisme dur de Fillon et le libéralisme inflexible de Juppé, l'espace de débat qui reste est fin comme du papier à cigarette. Alors sur le plan des idées, je pense que la guerre des droites n'aura pas lieu. Mais qui pourrait s'en étonner ?
Alors quoi ? L'espoir viendrait-il de la gauche ?
Ouais, mais ça semble assez mal parti. Alors, bien sûr, à gauche, dans un espace finalement assez réduit qui s'étend d'Europe Écologie au Parti Communiste, on se met à rêver à une grande primaire transpartisane, citoyenne, participative et tutti quanti, rien que ça. Alors, vous savez, c'est le mouvement Notre Primaire qui a publié un grand manifeste dans Libération il y a 2 semaines. Alors, le texte a été signé par Daniel Cohn-Bendit et puis Romain Goupil, ces 2 anciennes figures de mai 68 qui ont cessé d'être subversive il y a bien longtemps. On compte aussi dans la liste des signataires François Dubay, le sociologue qui a chapeauté toutes les réformes éducatives de droite comme de gauche depuis 25 ans, ça fait très envie. Alors il y en a d'autres du même tonneau, hein, je vous épargne la liste. Et puis tout ce monde-là appelle à débattre pour faire émerger des idées. Alors débattre de quoi ? Quelles idées ? On ne le saura sans doute pas, mais l'essentiel est là, dans la ferveur de l'incantation. Parce qu'on se sent si bien à débattre entre soi, dans les journaux amis, à l'ombre du PS. Et on rentrera fidèlement dans le rang dès que sera brandie la menace du Front National et de l'infâme bloc réactionnaire. Mais enfin d'ici là, on aura pu se faire plaisir avec quelques tribunes, quelques pétitions, peut-être même 1 ou 2 polémiques, allez savoir. Jusqu'à la prochaine fois. C'est beau la démocratie, c'est noble, ça sent bon. Et puis alors, Jean-Luc Mélenchon ne participera pas à cette mascarade. Super, c'est bien Jean-Luc. Il se lance tout seul, très bien, parfait. C'est tout à son honneur, JLM 2017. Mais alors, se lancer tout seul en capitalisant sur son propre nom, tout en prétendant lutter contre la personnalisation excessive du pouvoir sous la 5e République, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me dépasse un peu.
Alors Jérémy, on a bien compris que t'étais agacé, mais c'est quoi le problème au fond ?
Eh bien, à mes yeux, le problème est triple. D'abord, premier problème, tout cela va quand même ressembler furieusement à la présidentielle de 2012. Hollande, Mélenchon, Sarkozy et Le Pen candidats, sérieusement, c'est un immobilisme qui a de quoi rendre furieux, comme si l'alternance n'avait servi à rien. Comme si en fait, il n'y avait pas eu d'alternance du tout, parce que plus que jamais, il n'y aurait pas d'alternative. Et voilà qu'on s'excite déjà en attendant 2017, mais à quoi bon ? Et puis le deuxième problème, c'est que cette agitation préélectorale cache mal les questions les plus graves. Au Parlement, on détricote la démocratie comme le code du travail, le chômage refuse obstinément de baisser, on vit dans l'expectative du prochain attentat islamiste, et il faudrait bien vite songer à élire les politiciens suivants. Alors la vie politique est hors sol et hors sujet, et plus que jamais. Et alors surtout cette frénésie, troisième problème, cette impatience furieuse d'élire, élire à tout prix n'importe qui, et le plus vite possible pour que tout change sans que rien ne change, cette effervescence n'a rien de démocratique. La politique, au contraire, devrait se nourrir du temps long, celui de la réflexion, de l'action pensée et entreprise en profondeur, et bien sûr, du débat nourri, du vrai débat plutôt que de la vaine polémique. Mais avec un quinquennat peau de chagrin et des institutions toujours verrouillées dans l'attente de ce qui va venir ensuite, c'est inenvisageable. Alors voilà qu'encore une fois, notre destin collectif va nous échapper. et nous serons condamnés à le voir piétiner en boucle sur les chaînes d'infos en continu. Et après ces bien sombres perspectives, en voici d'autres encore. Nous avions parlé de l'Europe avec Samuel tout à l'heure. Revenons à l'Europe, revenons-y. Peut-être pour mieux la quitter d'ailleurs. C'est l'heure de l'édito international de Maxime.
Partout c'est la merde en fait. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde en fait. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde en fait. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde.
Oui, alors j'aimerais commencer par un petit message de prévention. Odeur de brûlé, fumée inhabituelle ou lueur suspecte, c'est un début d'incendie. Brisez la glace pour donner l'alerte. Fermez les fenêtres et les portes. Dirigez-vous vers les issues de secours les plus proches. À n'en pas douter, dans l'immeuble européen, voilà un petit moment que les odeurs sont suspectes. Et la réaction de nos amis britanniques ne s'est pas faite attendre. C'est en 1973 qu'ils ont acquis leur place dans l'édifice, à l'issue d'un référendum approuvé à 67%, 25 ans après l'évocation par Winston Churchill d'un chantier d'États-Unis d'Europe qui a pourtant débuté sans eux, dans l'exaltation pacifiste de l'immédiate après-guerre. S'il est permis de parler d'une exaltation pacifiste à l'aube de la guerre froide. On a pu lire que le Royaume-Uni devait son euroscepticisme chronique au bout de manches le séparant du continent et au fait que la guerre ne s'est jamais trop traînée sur son sol, contrairement à ceux des voisins, notamment français et allemands. C'est rendre une drôle de justice aux milliers de victimes des bombardements nazis. Non, en vérité, la Grande-Bretagne a longtemps grincé des dents par libéralisme. Et le libéralisme est une, sinon la constante la plus sûre de notre vieil ennemi d'allié. Bon, je ne reviens pas au temps de Jules César, mais le pays se réclame toujours d'une tradition commerçante ouverte au monde entier, fer de lance du libre-échange, ce en quoi le projet européen pouvait, après tout, s'accommoder à ses principes tels qu'il s'est présenté. Seulement, il y a un hic. Contrairement à la plupart des autres unions régionales du monde, quand elles marchent, l'Union européenne ne se contente pas d'être un club de marchands impatients lassés de payer des droits de douane. L'Union européenne met en place des mesures, intervient sur le terrain, souvent financièrement, ce qui suppose un budget. Et comme ce n'est pas un État à proprement parler, il faut la financer, ce qui passe par une petite contribution à laquelle chaque membre sera tenu de participer selon sa taille et ses moyens. Oui, chaque pays, jusqu'à Malte, à hauteur de 65,7 millions d'euros. Sans surprise, le plus gros contributeur est l'Allemagne, avec ses 80 millions d'habitants et près de 26 milliards de contributions, soit environ 26 Burj Al Arab, 1 milliard d'euros égalant à peu près à 800 mètres de gratte-ciel. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pour vous donner une idée. La France suit avec un modeste 19,6 milliards et le Royaume-Uni se place en quatrième rang, derrière l'Italie avec seulement 11 Burj Al Arab. Je dis bien seulement, car il s'agit bel et bien d'une des principales grandes puissances du continent quand même. Il faut dire qu'il y a déjà eu du négoce. On se souvient tous avec tendresse et affection, objectivité toujours, de notre chère mère Thatcher et de son célébrissime « I want my money back » au sujet notamment des subventions agricoles. Et oui, l'Europe, à l'image de la fédération allemande, fonctionne comme une grosse piscine de brassage des richesses, ce qui profite assez naturellement aux pays les plus en difficulté et coûte aux plus riches. Le Royaume-Uni avait obtenu un rabais équivalent aux deux tiers de ce qu'il investissait sans retour dans l'Union. Sans retour pour lui, s'entend. Rabais que les autres pays ont dû prendre en charge à sa place. Et devinez qui paye le gros du magot ? La France. Malgré tout, oui, l'Europe continue de coûter aux citoyens britanniques. Et ce n'est pas tout, car ses défauts pour les eurosceptiques supportant un Brexit sont nombreux. Limite aux envolées lyrico-bancaires du quasi-paradis fiscal qu'est la City londonienne, il ne lui manque que les palmiers ou les montagnes, vous choisissez. Limite à la fermeture des frontières aux vagues de réfugiés, allez donc voir ce qui se passe du côté de Calais. Obligation de payer leurs droits sociaux aux citoyens venus d'autres pays en Europe, travailler sur le sol de sa majesté. Et pour couronner le tout, toujours ces sombres perspectives fédéralistes auxquelles les eurosceptiques semblent malheureusement être les derniers à croire. Bien assez pour que les champions d'une sortie de l'Europe acquièrent dès le début des années 2010 un poids tout à fait respectable, notamment le parti du très médiatique Nigel Farage, le UKIP, UK Independence Party. Très médiatique et très médiatisé. Tout le monde lui ouvre ses portes et l'écoute parler avec une dédaigneuse délectation qui ne fait que le servir. Mais ça, on allait même à la maison. Tout cela tant et si bien que le Premier ministre David Cameron a promis dès 2013, car j'en viens au fait, qu'il mènerait un référendum sous 4 ans si aux élections de 2015 son parti conservateur obtenait la majorité absolue des sièges du Parlement. Un pari assez simple pour rallier des eurosceptiques tentés de basculer aux extrêmes en ces temps de strabisme divergent vers la droite. Pourtant, David Cameron, quoi qu'il puisse lui reprocher, reste attaché à l'Union européenne, qui a accompagné l'essor économique du pays pendant les premières décennies de son ralliement, et qui reste une institution économiquement très pratique. Il faut dire qu'il ne croyait pas trop en sa promesse lorsqu'il l'a formulée, car il ne s'attendait en vérité pas à l'avoir, sa majorité absolue, l'an passé. Mais sa stratégie a dépassé ses espérances. Il va maintenant falloir l'assumer, et l'assumer vite, car les élections en France et en Allemagne pour 2017 risquent de faire pencher la balance, pense-t-on, de l'autre côté de la Manche. La question doit se régler dans le courant de cette année. Le référendum devrait se tenir en juin prochain, selon les résultats des actuelles négociations. Car pour assumer cette décision, M. Cameron sillonne depuis quelques jours les quatre coins d'Europe en vue de mettre sur pied une solution de compromis, qui lui permette d'une part de ne pas perdre la face, et d'autre part de consolider l'incertaine avance du yes à la question « Should the United Kingdom remain a member of the EU ?» Un compromis sur lequel les partenaires européens, plutôt désireux de ne pas voir partir ce pilier de l'Europe, n'ont pas trop craché jusqu'à maintenant. Pourtant, même si les tabloïds anglais prétendent que ce ne sont que d'insignifiants pansements, les mesures demandées par David Cameron n'ont rien d'anodin. Parmi les plus importantes, il y aurait une limitation des droits sociaux des travailleurs de l'Union résidant au Royaume-Uni et un allègement des réglementations sur le marché unique, notamment concernant les transactions financières. Également, un droit des parlements nationaux d'intervenir directement par un droit de veto sur les décisions prises par la Commission. Mais ce ne sont toutefois pas les mesures les plus discutées du côté français. Celle qui fait le plus d'étincelles chez nous, et qui sent le plus le soufre, ce serait de ne plus qualifier l'euro de monnaie unique de l'Union. Autrement dit, les pays non membres de la zone euro ne seraient plus tenus de respecter une partie des réglementations financières et bancaires de l'Union, tout en gardant un contrôle dessus. En gros, cela constituerait un avantage stratégique décisif pour la City, qui se donnerait le beurre, l'argent du beurre, et quitte à avoir le sourire de la crémière, on aimerait bien se débarrasser de cette mention des traités fondamentaux là, qui parle de « ever closer union », d'union à renforcer. Ça ne plaît pas trop. Bref, on a un petit peu l'impression que la situation, pour le 10 Downing Street, n'est pas si incontrôlée que ça. Certes, les sueurs froides sont bien là et rappellent un peu l'ambiance de tension qui avait précédé le référendum écossais. D'ailleurs, la royauté commence à s'en mêler. Il ne faudrait pas non plus que l'Europe, en voulant préserver son intégrité, se laisse gentiment entuber par cet exigeant membre dont la position de force est à relativiser. Car revenir au statut de pays étranger le déstabiliserait pendant au moins quelques années, sans parler justement de la question écossaise, car l'Écosse est très europhile et cela pourrait bien lui redonner des envies d'ailleurs. Après tout, Londres étant assez prompte à mettre des bâtons dans les roues des différents projets européens, surtout lorsqu'ils impliquent une collaboration plus intense, une Europe libérée de ces polémiques interminables avec menaces de départ à la fin, se laisserait peut-être plus de latitude pour rêver d'avenir. Il serait temps.
Merci beaucoup. Alors les perspectives sont très sombres. Avant de rire un peu, on atteint le temps d'échange de cette émission, le moment de revenir sur les sujets abordés, d'en parler, de croiser les points de vue. C'est l'heure de notre discussion. Alors, je propose de reprendre peut-être les choses dans l'ordre le plus évident. On a beaucoup parlé de l'Europe aujourd'hui, aussi bien dans la revue de presse que dans l'enquête sur la Grèce et l'éditorial sur le Royaume-Uni. Qu'est-ce que vous inspire ces possibilités d'un Brexit, d'une sortie de l'Union de la Grande-Bretagne ?
Ça n'a jamais trop marché, l'Europe à la carte. Ça a marché quand économiquement les choses allaient. Là, on voit que l'Europe est contestée de tous les côtés, que ce soit en Allemagne, ce qui est assez nouveau parce que l'Allemagne est un pays relativement europhile. Si ça permet une Europe plus intégrée, pourquoi pas, mais j'ai peur que ça soit l'inverse.
Ouais, moi je pensais, quand tu parlais là, que l'Europe à la carte, ça n'a été une réalité depuis toujours que pour le Royaume-Uni.
Oui, ça c'est très clair.
Ah, oui, c'est ça. Non, parce que oui, voilà, depuis l'euro monnaie unique, justement, dont Maxime parlait, ça laisse très peu de marge de manœuvre à beaucoup de pays, en premier lieu le Portugal et la Grèce.
Oui, il y a un modèle d'intégration du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, vraiment toujours le cul entre deux chaises, et David Cameron reflète vraiment cette position. Attachement à un certain nombre de principes, allez, on va dire politiques et économiques, ceux du libéralisme, mais d'un autre côté, frigidité à l'égard de tout ce qui pourrait ressembler à une réglementation, une uniformisation, et c'est ça qui est en train de vaciller un peu, j'ai l'impression.
Bah oui, et il serait en fait un peu temps pour tout le monde, parce que c'est quand même un problème que des pays membres n'aient pas une souveraineté économique, en fait. C'est-à-dire que quand on a la Banque Centrale Européenne qui impose des mesures comme ça, qui sont plus ou moins dictées par l'Allemagne sans vouloir faire de rhétorique complotiste.
Ouais.
Des pays comme la Grèce ou le Portugal ne peuvent pas dévaluer leur monnaie quand elles sont en situation de crise parce qu'il ne faut pas faire plus de 2% d'inflation et ça crée vraiment des problèmes. Il faudrait peut-être que l'Europe soit justement un peu plus à la carte que ce qu'elle est actuellement pour plus de pays. Parce qu'effectivement, là, enfin, c'est un avertissement, quoi. Mais comme il y en a eu beaucoup d'autres.
Oui, parce qu'on est bien d'accord que une intégration plus avancée, irait évidemment dans le sens d'une perte de souveraineté,
oui.
de d'une uniformisation des principes économiques, enfin des politiques économiques, oui, bon, ça c'est
oui,
très clair. Et justement, la question de la souveraineté, parce qu'on y revient toujours, et c'est ça qui est un peu au cœur du mouvement fondé par Yanis Varoufakis. Enfin, justement, c'est ça qui m'étonne. Fonder un mouvement pro-européen à Berlin,
ouais.
C'est de la provocation ou c'est de la maladresse à ce stade?
Je pense qu'il y a un peu des deux.
Oui.
Mais...
Moi, Varoufakis, je le verrais bien. Je le vois bien arriver à Berlin, justement, comme il arrive au Conseil européen sur sa moto. Et
ouais,
puis,
on reste de bon, cuir.
Allô les mecs, on va rénover l'Europe. Hein.
Non, mais comment dire, c'est plus de la symbolique que de la provocation, même s'il y a une part de provocation dedans, je pense. Mais effectivement, ouais, il y a un petit peu des deux, peut-être. Mais moi, je verrais plus quand même. Enfin, je pense pas que ce soit tant une maladresse que ça, en réalité.
Oui, c'est bien pensé,
ouais,
au contraire. Ouais. Et moi, ce qui m'étonne dans ce mouvement, c'est qu'il le dit lui-même, tout le monde peut s'y rallier, des libéraux, des radicaux, des écolos, enfin vraiment toutes les couleurs politiques. Donc en fait, ça veut dire qu'au-delà d'un certain nombre enfin, d'une volonté commune, d'une croyance dans l'idéal européen, etc., il n'y a pas véritablement de principes politiques qui seraient partagés par tous les membres. Enfin, c'est un truc un peu flou, non?
Je pense que c'est justement exactement ça le problème de l'Europe.
Ah, ouais.
Parce que d'avoir voulu faire une union, une communauté politique sur le marché et la monnaie, au fond, c'est une hérésie. Ça crée une concurrence exacerbée entre les pays. Comme tu disais, hein, quand il y avait de la croissance, une bonne dynamique, bon, ça cassait un peu les contradictions. Mais maintenant que tout le monde est confronté à ces problèmes, là on voit que l'Union au fond elle est en train de se dissoudre, hein. C'est l'effet que ça donne. On aurait dû faire un État européen avant de penser le marché et la monnaie.
Moi, j'ai l'impression qu'il veut vraiment le faire en constitutionnaliste, enfin faire simplement une constitution, enfin, comme tu disais, faire des assemblées, vraiment un mode de gouvernement complètement nouveau pour l'Union européenne. En soi, effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un projet politique autre que la démocratie derrière. Bon, après, pour que ça fonctionne, on sait comment chaque réforme constitutionnelle a fonctionné. C'est parce que derrière, on avait quand même un projet politique relativement clair. Ouais. Et c'est pour ça que, bon, c'est effectivement très utopique comme projet.
Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Clément. C'est-à-dire que le principe qui sous-tend le mouvement, c'est, enfin voilà, c'est ça le dit dans le nom du mouvement, hein, Democracy in Europe Movement. Donc c'est voilà, plus de démocratie, redonner le pouvoir aux différents peuples européens. Mais effectivement, c'est difficile de comment dire, établir une constitution aussi démocratiquement que ce soit-il, sans projet politique cohérent derrière. Ouais.
Voilà, c'est bien le problème. On se réunit politiquement, mais autour de quoi? On ne sait pas trop. Alors, le mot démocratie fonctionne comme un petit gros lot qui permet d'appâter tout le monde, mais derrière ça, il n'y a pas grand-chose.
Tout le monde est démocrate. Voilà,
c'est ça.
Ça ressemble pas plus
qui n'est pas démocrate.
Mais après, c'est peut-être... on pourrait aussi penser que la société civile elle est dépolitisée vis-à-vis de la question européenne et que la création d'un mouvement comme ça ou l'émergence de ce mouvement en fait apolitique ou tout politique ça peut être vu comme un coup d'opportunité pour le leader et aussi peut-être ça répond à une vision que peuvent avoir le citoyen et la société civile d'une Europe dépolitisée, qu'on politise comme on veut. Celle qui nous enlève nos subventions agricoles, on peut finalement attaquer cette Europe de la manière dont on souhaite. Et peut-être que le mouvement répond à aussi une dépolitisation de la perception qu'en ont les citoyens européens.
Oui, exactement, parce que le mouvement s'adresse d'abord à des citoyens, quoi, des citoyens européens, avant de s'adresser à des hommes politiques. C'est-à-dire qu'il est fait mention de voilà, libéraux, centristes, verts, dans le manifeste, mais c'est un mouvement qui s'adresse d'abord à des citoyens européens.
Mais en se plaçant quand même à une échelle européenne, c'est-à-dire en prétendant partir du haut, c'est-à-dire d'une structure transeuropéenne qui redescendrait ensuite vers les citoyens et vers les structures politiques nationales, ça a vraiment des chances de marcher, un truc pareil?
Bah ça, j'en sais rien. Ils en sont pas convaincus.
L'avenir nous dira, mais même eux n'ont pas l'air très convaincus.
Voilà, mais c'est ça. En tout cas, l'objectif, c'est une assemblée constituante, donc qui est vraiment composée de citoyens, qui redonne plus de pouvoir à la fois aux différentes nations, mais aussi aux assemblées régionales et locales. Donc c'est vraiment C'est-à-dire la décision peut être prise là, mais il y aura toujours consultation du peuple en permanence, quoi. C'est l'objectif.
Et puis on peut revenir aussi sur mon édito politique et aussi ce qui a ouvert la revue de presse de Clément, c'est Sarkozy. Enfin, on est en 2016, Sarkozy est plus président depuis 4 ans.
Enfin, il est toujours président de quelque chose.
Il est toujours président de quelque chose, oui. Bien entendu.
Il se débrouille toujours pour.
Est-ce que vous partagez mon agacement comme ça, ma lassitude à l'égard de l'histoire qui se répète encore et encore, de cet enlisement politique auquel on assiste?
Plus que jamais.
Oh oui.
Plus que jamais.
Oui, c'est le mot, hein, c'est lassant, vraiment, c'est fatigant, épuisant même.
Ouais, c'est ça, le côté sclérosé des appareils de parti au niveau national. On a l'impression que c'est plus que des personnages médiatiques, des réseaux.
Et voilà, oui.
Au moins, pourquoi il n'y a pas de nouvelles têtes qui émergent, quoi. L'UMP comme le PS, ils ont plein d'élus locaux, toujours des réseaux d'énards qui tournent derrière. Enfin, il devrait toujours avoir quelqu'un dans le style.
Mais ça finit par tourner à vide, oui, c'est très clair.
Qui pourrait remplacer, au moins là, changer de figure, changer de tête. Ouais. C'est assez évident que la majorité des gens sont complètement gavés, ouais. Il n'y a pas d'autre mode. Ça leur apparaît comme un bal médiatique.
Puis Sarkozy tourne complètement à vide. Enfin, on voit bien dans ses prises de position ces deux dernières années. Il dit tout et n'importe quoi. Un coup, il va abroger le mariage pour tous. Un coup, il a décidé de le laisser. Un coup, il faut accueillir des migrants. Un coup, il ne faut pas les fusiller à la frontière, mais presque. Enfin, il dit tout et n'importe quoi en moins de 5 minutes. Enfin, bon,
il a quand même pris le temps d'écrire.
Il a pris le temps d'écrire un livre. Oui. J'imagine que c'est un excellent livre, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup le lire. Mais bon, enfin, ça s'en tient ridicule quand même.
Le plus lassant, c'est l'absence de débat, en fait. Le débat est complètement vide, ils sont tous d'accord. Je veux dire, PS, c'est à la fois les mesures des Républicains et du Front National. Donc, de quoi ils veulent débattre? C'est primaire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir dire? Et tu l'as dit d'ailleurs dans ta revue de presse.
Enfin, oui, on est bien d'accord, il n'y aura pas de débat parce qu'il n'y a rien à débattre.
Et... C'est incroyable. Alors qu'il y aurait à débattre. Des sujets, on prend que des sujets. Je ne sais pas, économiquement, il n'y a plus de débat parce que sinon c'est la crise. Au niveau des problématiques de sécurité, de gestion de l'intérieur, on prend plus, c'est pareil, on s'écarte plus, sinon c'est l'attentat. Ouais.
Voilà, c'est le danger qui nous menace.
C'est quand même incroyable qu'on en soit là, quoi.
Mais notre lassitude autour de la table, je pense qu'elle est partagée au sein des Républicains. C'est-à-dire que.
J'espère.
Non, de leur électorat aussi, hein, les gens qui votent à droite pour la plupart.
Mais même au sein de l'UMP, là, quand ils ont tenu leur grande messe, là où Sarkozy a fait son grand discours il y a 3 jours, ils attendaient les 2000 conseillers nationaux, ils en ont eu à peine la moitié. Les conseillers nationaux, donc les cadres du parti, il y en a la moitié qui se sont déplacés, il y en a à peine la moitié qui ont voté pour élire le nouveau secrétaire général.
Ça leur fait du bien.
Sur la question des primaires, en l'occurrence pour la gauche, moi je trouve quand même que c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où oui, les personnalités politiques ne changent pas, et surtout à gauche, si on prend le Parti Socialiste, François Hollande est le candidat légitime. À partir de là, est-ce que d'ailleurs un président sortant doit être le candidat légitime ou non? La question de la primaire, c'est pas pouvoir, malheureusement, changer de candidat ou pas, mais de peut-être faire plier cet homme qui est légitime dans d'autres perspectives ou revenir à d'autres fondamentaux portés du coup par le parti, mais portés aussi peut-être par des sympathisants ou militants de ce parti. Et donc une primaire à gauche, ça peut être intéressant puisque, donc même s'il peut y avoir polémique, etc., il y a quand même une base partisane qui va essayer de... ça peut être un moyen de pression et un moyen de justement remettre peut-être les pendules à l'heure.
Donc l'idée ce serait polémiques. Pas de substituer un candidat de gauche à François Hollande, mais de réorienter, la politique menée par Hollande.
Et voilà, d'exercer quand même un moyen de pression sur les dires et l'agir de l'homme politique légitime, pour ce parti en l'occurrence.
Mais si je peux me permettre, il y a quand même un problème énorme dans cette primaire, c'est que pour moi ça n'a aucun sens de faire une primaire qui va de Macron à Mélenchon, parce que c'est comme si on faisait une primaire qui mettrait Besancenot et Wauquiez dans le même sac, quoi. Enfin, c'est des gens qui n'ont rien à voir. Donc effectivement, il faut qu'il y ait des voix divergentes si on fait une primaire à gauche. Pour moi, c'est vraiment comme si on faisait une primaire où on mettrait l'extrême gauche et l'extrême droite dans un même sac. Parce qu'il n'y a rien à voir entre les deux.
Il est temps qu'ils consomment le divorce tous autant qu'ils sont. À la limite, la primaire, ça pourrait être la seule utilité de la primaire, bien montrer que c'est fini. Il y a au moins deux grandes gauches maintenant.
Oui, peut-être, mais bon.
Que même à l'intérieur du PS, s'ils en pensent faire des primaires, c'est-à-dire qu'ils partent pas du principe que leur président doit être réélu, C'est déjà, ça pose des questions, quoi. À la limite, les primaires de l'autre gauche, de la gauche radicale, ça pourra avoir du sens.
Pour finir, on va passer à notre séquence débat, une autre séquence débat, chacun sa croix, chacun son chemin. Alors le principe est simple, chaque semaine un thème d'actualité pour en parler, pour nous éclairer, des invités un peu hors du commun venus partager leur expérience, nous faire découvrir le monde, en un mot, nous faire rencontrer cette France qu'on ne connaît pas, et certainement pour de bonnes raisons. Au menu aujourd'hui, alors la réforme des langues au collège, hein, qui sera discutée par la mairesse d'une localité rurale qui nous avait déjà fait le plaisir de venir nous voir à Transistor, Sylviane, paysanne et mairesse de Saint-Picoul. Bonjour Sylviane.
Oh là, je suis pas paysanne, hein, mais cultivatrice. Hein. Merci et bonjour.
Ah oui, attention, nuance. Et puis nous aurons aussi avec nous Jean-Étienne Guyot de Lagardère, vicomte de Lagardère, auteur d'un livre controversé, quoique assez confidentiel, Le latin sauvera la France. Alors bonjour monsieur, enfin on peut vous appeler simplement monsieur de Lagardère, hein, ça ira.
Tronquer un nom pour entamer un débat sur les langues, hein, connaissez bien vous mon petit. Commencez bien.
Bon, les messieurs, ils vont s'entendre là parce qu'il y en a à dire aujourd'hui. Alors, Jean-Étienne Bordel, là. Je te le dis, mon gars. Ici, t'as pas le châtelain.
Oh, mais comment elle me parle, cette énergumène, là? Falloir revoir votre casting, mon petit monsieur.
Oui, c'est ça, oui, mais rappelez-moi votre profession, là, à vous.
Disons que je suis un homme de lettres.
Mais fait sur la commode, oui, homme de lettres. Mais vous êtes un richouille qui vit sur sa rente, qui sort un bouquin là une fois l'an pour se faire mousser. Puis parlons-en de votre livre. Un plaidoyer pour le latin à l'école et la messe en latin. Non mais sérieusement, page 1374, qu'est-ce que je lis pas? J'ai eu la chance de rejoindre l'école jésuite de Bonnival en Écureuil, ce qui me permet aujourd'hui d'entendre la voix de notre Seigneur dans sa plus belle version, la version latine. Non mais, tu sais.
Oui madame, en latin, exactement. Est-ce que je vous parle, moi, de votre patois de Visigoth?
Visigoth? Mais pourquoi qu'il me parle de ça, celui-là? Chez nous, à Saint-Picoul, nos gamins, ils étudient en dialecte, hein. De la maternelle au CM2. Et ça, on en est fiers. Hein.
Ah d'accord. Vous reniez la langue de notre sainte église catholique apostolique romaine pour votre espèce de patois, là, votre sabière d'arriéré.
Non mais écoutez-le, cet animal. Mais c'est pas un peu perdu en 2016, là, le curton.
Ouais, les trois classiques, ça n'est pas à votre portée. Hein.
Alors si on vous laissait faire, je comprends bien, les gamins, ils auraient l'école et un cursus parallèle en latin et grec ancien. Non mais super. On va pouvoir leur faire tourner des péplums en version originale. Et ça va que les cubéni réactent dans votre genre, ils sont antisémites, hein? Parce qu'avec l'Ancien Testament, vous leur feriez apprendre l'hébreu, peut-être?
Et vous auriez préféré une tragédie dans votre patois de bouseux, peut-être? Et encore, je dis ça, supposerait qu'on puisse l'écrire, votre machin. Et quel avenir, hein, pour des jeunes qui parlent votre patois du Loir-et-Cher, oh. Là, madame? Confectionner quelques boudins noirs de Mortagne à la veillée du soir, peut-être?
Moi, ça leur évitera vos rites de débiles, hein?
Je vous demande pardon. Qu'avez-vous contre les saints sacrements?
Oh mais qu'est-ce que j'ai? Non mais excusez-moi du peu, hein. Prenez la communion par exemple. Vous êtes là, dans une pièce fermée, il y a un prêtre, 30 gamins qui attendent la bouche ouverte pour se voir l'hostie, vous parlez d'une scène glauque, la messe en latin, non mais n'importe quoi. Jacques en français, ça fout le cafard si en plus on comprend pas ce qui se raconte.
Ah ça on s'en doute bien, vous ne comprenez pas grand-chose.
Alors s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait recentrer le débat sur la question des langues? Monsieur, alors d'où vous vient ce dédain pour les langues régionales?
Ah mais je vais vous le dire moi d'où ça lui vient,
non,
celui-là.
Non mais allez-y, hein, répondez à ma place, aucun souci.
Non mais c'est pourtant clair, hein. Il sent le 16e arrondissement là, plein nez, oh là là. Et vous sortez jamais de Paris, vous là. Pour vous, tout ce qui est 30 bornes en dessous de la porte d'Orléans, c'est l'exotisme, l'arriération.
Mais elle devrait s'estimer heureuse là, la roturière, hein. À une époque pas si lointaine, n'aurait jamais passé la porte d'Orléans. Dans le temps, on savait séparer le bon grain de l'ivraie, je vous le dis moi.
Bon de Lagardère là. On a bien compris, hein, que le monde paysan ça vous emmerde. Mais vous n'y connaissez rien.
Mais vous apprendrez que je suis un connaisseur de la vie champêtre.
Oh là, je crains le pire. Monsieur est chasseur, non?
Tout à fait, madame.
Laissez-moi deviner ça, la chasse à cour.
Oui, madame, la plus noble des chasses.
Oh là, mais on touche le fond, les amis. La chasse à cour. Mais il n'y a pas ça chez nous. Hein. Ils sont là, à 20, au lever du soleil en hiver, à se geler, avec quelques attardés là qui regardent derrière. Non, mais sérieusement, à quoi ça ressemble? De sortir canasson, costard, trompette et la meute. Tout ça pour aller triper trois... Trois pauvres nards ?
Mais vous n'y connaissez rien, ma pauvre. Dommage, ça aurait amené un peu de prestige à ce repère de crasseux que vous appelez votre village.
Oui, bah déjà, pas vous n'êtes pas le bienvenu à Saint-Picoul, hein, ça je vous le dis. Hein. Et puis croyez-moi, nous les crasseux, au moins on s'entasse pas à 5000 dans un métro qui sent la sueur à 17h. Hein. Et puis nos déchets ménagers, on les fout pas à l'eau, ni vu ni connu. Hein. Alors votre latin grec là, c'est du vernis à ongles, c'est la crasseuse sale qui se parfume avant de sortir. Hein.
Clochard.
Croulant.
Charru.
Charlatan là.
Couleuvre.
Et cochon.
Allez, sur ce jingle que personne n'aura compris, si ce n'est peut-être les quelques derniers fans de Motus, qu'on en profite pour saluer, on va s'arrêter là. Dans le rôle de Monsieur Guyot de Lagardère, c'était Pierre-Antoine qui affrontait Sylviane de Saint-Picoul, alias Tatiana. Alors merci beaucoup pour cette joute à tous les deux et merci à tous de nous avoir suivis pour ce numéro du journal radiophonique amplifié. Merci aussi beaucoup à ENS Média, à Manu qui assurait la technique, qui assurait dans tous les sens du terme. Et puis à la fois prochaine, on ne sait pas quand mais il y aura une fois prochaine, on vous le promet.
Ne me dis pas que c'est fini. Ne me laisse pas vivre sans toi et peut-être sombrer jusque dans l'eau.